For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour cette émission qui sera la dernière avant une petite coupure estivale, mais qui ne serait pas sans notre consultant star Arnaud Di Pasquale. Comment vas-tu en ce mois de juillet?
Salut, écoute, très bien, je te remercie Sébastien, très bien.
À nos côtés cette semaine, un journaliste de la rédaction qui n'a pas perdu une miette de ce qui s'est passé ce week-end, Cyril Morin. Bonjour Cyril, comment ça va?
Salut Sébastien, salut Deep, bah ça va. Encore un peu soufflé par cette finale magnifique, mais en pleine forme pour débriefer tout ça.
Eh ben c'est parfait. Au menu de cette émission, donc le séisme ressenti à Wimbledon le week-end dernier, le sacre d'Alcaraz à Londres face à Novak Djokovic. Nous allons débriefer cette finale en long et en large. Aviez-vous vu venir? Quelles conséquences pour la suite de la saison? Est-on définitivement entré dans une ère Alcaraz? Autant de questions qui se bousculent après ce coup de force de l'Espagnol. Nous n'allons pas perdre de temps, je crois que les jours sont prêts. Alors Deep Impact, c'est parti. Alors messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Commencer par Arnaud, ce titre d'Alcaraz à Wimbledon, comment le résumer en un mot, si c'est possible?
Talent, je ne sais pas, adaptation, adaptabilité, j'en sais rien, mais un truc comme ça, enfin, pour moi, c'est bluffant, évidemment. Voilà, mais c'est difficile, là, t'es quand même dur, parce que en un mot, te résumer un match pareil, et, c'est quasi impossible.
Bon, alors je suis sûr que Cyril va y arriver.
Mais on va en parler.
Ah, moi, je vais dire. Mon mot, ce sera une expression, c'est waouh. Voilà.
C'est l'effet waouh.
L'effet waouh. Parce que cette finale, elle condensait tout et qu'on a eu l'effet waouh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pensé que ce match serait un bis repetita de beaucoup de matchs de Djokovic qu'on a vus face à des jeunes joueurs. Et on a eu l'effet waouh parce qu'il s'est produit exactement l'inverse de ce qu'on attendait.
Alors. Un mot peut-être sur la surface pour commencer. C'est vrai que beaucoup pensaient, et moi le premier, que ce genre d'exploit aurait été possible sur la terre battue de Roland-Garros. Et finalement, c'est arrivé là où peu de personnes le voyaient s'imposer face aux Serbes, sur gazon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore de cette surface? Est-elle toujours aussi particulière au sens premier du terme par rapport aux autres surfaces, Arnaud?
Alors, elle est moins rapide, mais elle reste particulière quand même. En fait, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as quand même des effets qui prennent un peu plus qu'ailleurs, enfin, ou différemment. Tu as quand même des rebonds plus bas. Et après, même si la piste s'use, elle s'use beaucoup moins qu'à l'époque. On le voit aussi, il y a quand même des images qui sont assez parlantes. C'est hyper intéressant d'ailleurs de voir. Il y a 25 ans, quand tu reprends le central et avant une finale, et aujourd'hui, bah, tu vois quand même que le terrain est encore tout vert en dehors de quelques zones. Mais de toute façon, il a été ralenti. Donc ça, OK, on ne revient pas dessus. Donc forcément, ça joue du fond. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'attaquants qui peuvent se permettre de faire service volé. En tout cas, c'est de plus en plus compliqué avec le matériel, avec les balles qui sont lentes. Voilà, toutes les conditions ont été mises en place pour ralentir le jeu. Très bien. Mais à la fin, attention, finalement, ce dont on se rend compte quand même, c'est que à qui ça correspond, bah, aux excellents relanceurs quand même, aux excellents contreurs, aux gars super physiques. Et ça demande, le gazon, ça a toujours demandé, il me semble, parce que ça va quand même assez vite, que tu joues quand même assez tôt malgré tout, une sorte d'explosivité. Et ben là, on est en train de voir le joueur, probablement, moi je crois, le plus explosif, mais j'allais dire, qu'on n'a jamais vu en fait. Enfin, moi, ça va au-delà de en regardant simplement nos contemporains et tout ça, on va au-delà. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai déjà vu, moi, un gars enchaîné aussi vite entre les frappes. En termes de rapidité, d'explosivité, le jus qu'il a, la détente verticale qu'il doit avoir, c'est impressionnant. Voilà. Et donc, bah, le gazon, aujourd'hui, il demande ces qualités-là. Et c'est ce que je trouve que Djoko l'a plutôt bien résumé d'ailleurs. Il en a parlé, il a dit mes forces jusque-là à Wimbledon, c'était ça, mes qualités de relanceur, la dimension mentale évidemment, mais aussi ma tenue sur le terrain, ma couverture de terrain, et ça. Et il dit, bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un finalement qui joue exactement de la même manière et qui en plus va attaquer un peu, enfin va encore plus vers l'avant que Djoko avec peut-être plus d'audace. Il est capable d'aller chercher les points encore plus à la volée que Djoko. Donc voilà, mais pour le gazon, donc en fait, les qualités, elles sont là maintenant. Mais c'est hyper intéressant. Après, ça reste des attaquants, ça reste des gars méga physiques. Mais ça ne veut pas dire que enfin, le mot lent, faut faire attention quand même à ce qu'il ne soit pas mal interprété aussi. Voilà. Parce qu'à la fin, c'est pas non plus les. C'est pas, ça peut pas être Limmer et gagner, quoi. Je veux dire, faut pas non plus pousser.
Après, on parle d'exploit parce qu'effectivement, il y avait Djokovic en face, mais aussi parce qu'il n'avait disputé, je parle d'Alcaraz, que 11 matchs sur gazon avant de remporter le titre de Wimbledon. Et avant lui, il y avait seulement André Agassi qui avait réussi cet exploit en ne disputant que 6 matchs. Donc c'était en 92, face à Goran Ivanisevic d'ailleurs, coach désormais de Djokovic, c'est assez rigolo de le souligner. Il avait 22 ans à l'époque, c'était son premier titre en Grand Chelem. Sur sa route, il avait battu Becker, McEnroe, des purs attaquants, en jouant en fond de court, donc comme maintenant. Et c'était déjà un sacré paradoxe. Mais je passe la main à Cyril, est-ce qu'on peut parler aussi de paradoxe avec Alcaraz sur gazon ici?
Et ce qui est incroyable avec Alcaraz, c'est sa faculté d'adaptation, en fait. Il faut se rappeler qu'il a fait son premier tour au Queens face à Rinderknecht et qu'il avait vraiment souffert. Et en fait, à partir de là, à chaque match, et tout le monde l'a souligné, à chaque match, il est devenu meilleur encore une fois. C'est-à-dire qu'à chaque match, il montait en puissance, il comprenait encore mieux les déplacements sur gazon. Donc, je ne suis pas sûr que le débat sur gazon concerne vraiment Alcaraz, puisque moi, je le mets dans une catégorie à part de voilà, c'est un ovni en fait. Apprivoiser cette surface qui, je pense, et c'est ce que disait Mats Wilander, le consultant Eurosport, reste la plus compliquée à maîtriser au tennis. Ça dit beaucoup à la fois de son intelligence de jeu, de sa faculté d'écoute, de sa faculté de remise en question et de sa compréhension du jeu. Voilà. Et comme dit Arnaud, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Alcaraz, dans les moments un petit peu chauds, et notamment à la fin du cinquième, il vient les chercher les points. On n'est pas sûr, j'attends une faute directe de Djokovic comme ça a pu être le cap à la fin du deuxième set. Il est venu au filet, il a marqué des points au filet et ça prouve encore une fois que Wimbledon peut récompenser des jeux, sans dire des attaquants totaux, mais des jeux qui sont portés vers l'avant. Et si même un mec comme Eubanks, qui a quand même fait parler de lui cette semaine, prouve que c'est une surface qui reste à part.
Alors, question volontairement provocatrice maintenant. Est-ce que pour vous, c'est Alcaraz qui a gagné cette finale ou est-ce que c'est Djokovic qui l'a perdu? Alors, je veux dire ça parce qu'il y a eu deux moments importants dans cette finale. Ce tie-break du deuxième set que Djokovic peut, doit même remporter. Il a une balle de 2-7 à rien à 6-5 dans sa raquette. Ce revers qui lui échappe remet quand même Alcaraz dans le coup. Et puis cette demi-volée dans le filet sur une balle de break d'entrée dans le cinquième set. Ces deux points donnés qui ont fait quand même les affaires d'Alcaraz, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a eu quand même son importance dans ce match?
Moi, je pense que ça a son importance, mais tu rates parce que ton adversaire a semé, en fait. C'est-à-dire que tu rates pas juste comme ça pour rien, c'est pas possible. Parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la pression, parce que c'est quoi? Et même si c'est Djoko, bah, à un moment, tu te retrouves dans des situations qui sont plus difficiles que d'autres, face à des adversaires plus ou moins compliqués à maîtriser, à neutraliser. Et encore une fois, moi, pour répondre à cette question, je trouve que tu peux pas, ça serait hyper réducteur de parler de ces deux revers uniquement et de dire c'est là-dessus que ça s'est joué. Évidemment que on peut parler parfois de tournant, de virage, de tout ce que tu veux, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est 66 coups gagnants pour Alcaraz contre 32 pour Djoko. Donc en fait, quand tu es pris à la gorge tout le temps, même, tu vois, quand tu es même le meilleur contreur, celui qui a la meilleure couverture de terrain au monde, se retrouve pris, tu vois, assommé par des coups droits, des revers, des amortis, des lobes. À un moment, tu sais quoi? On peut plus. Et c'est normal aussi. Parce que quand tu ne dois pas rater, c'est là où c'est plus dur. C'est là où c'est très dur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est terrible. Et en fait, contre Alcaraz, là, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'as pas le droit. Et donc, ouais, il les rate. Il les rate alors que c'est assez inhabituel. Mais peut-être contre beaucoup d'autres joueurs, tu sais quoi? Il les rate pas, ceux-là. C'est la différence.
On l'a senti quand même vachement émoussé dans cette finale, Cyril. On l'a vu souvent, il perdait ses moyens, enfin, pas ses moyens, il perdait son sang-froid. si létale
Ouais, mais
auparavant.
ça arrive souvent avec Joko. Dans une finale, c'est pas toujours aussi. Moi, à l'inverse, il y a eu des moments où je le trouvais presque trop décontracté. Il se marrait un peu avec le public, etc. Et c'est un Joko que j'avais pas souvent vu. Je suis pas sûr que ce soit joué sur la dimension physique. Ou alors, elle n'est pas liée à Djokovic, elle est davantage liée à Alcaraz et à ce que disait Arnaud, c'est-à-dire que à force de te manger des parpaings, bah, à un moment, ça craque, quoi, vraiment. Et pour en revenir à ta question principale, est-ce que c'est Djoko qui l'a perdu ou Alcaraz qui l'a gagné? Il y a un petit peu des deux. Djoko, sur les points les plus importants, là où c'est le spécialiste habituel et où il tue tout le monde sur ces points-là, il a été un petit peu moins bon, c'est vrai. Mais par contre, Alcaraz, dans ces points-là, a été plein d'audace. Et tu as cité deux points, je vais en citer un troisième. Au moment où il sert pour le match, Alcaraz, il perd le premier point sur une amortie qu'il rate. Le point d'après, il retente une amortie. Et elle fonctionne et il gagne le point derrière. Ça dit à quel point ce gars-là a aussi autre chose dans son jeu, dans son répertoire, dans son ADN tennistique. Et il a été chercher cette finale et cette victoire tout seul. Djoko lui a rien donné.
Tu parles de Coronès?
Exactement, voilà. Il y a quelque chose de. Pour moi,
Enfin, c'est monstrueux.
c'est la grande révélation de ce match-là, c'est qu'il est, dans ces moments-là, capable d'avoir le même sang-froid et la même
Incroyable.
inventivité que les plus grands.
Ce dernier jeu, tu as raison, ce dernier jeu, il est fou. Il est fou. Il faut refaire ce dernier jeu, honnêtement. Il faut aller le gagner, ce match contre Djoko à Wimbledon en finale, quand même. Ce dernier jeu, il faut le faire. La manière dont il le remporte, franchement, c'est exemplaire, c'est magnifique. C'est sublime. Non, non, c'est assez dingue la gestion quand même des émotions. Alors, des émotions, je sais pas, en même temps, il a son truc, sa trajectoire, il la suit, ses schémas. Et après, sur la dimension physique quand même, je ne sais pas si c'est Sébastien ou toi, Cyril, là, vous disiez bah, que c'était peut-être un peu plus fluctuant quand même aussi côté de Joko maintenant. Et forcément, enfin, ça va jouer ça avec le temps qui passe, malgré tout. Quand tu as un jeune de 20 ans qui a cette fougue, enfin, cette jeunesse pour lui, en fait, tout simplement, bah, la différence quand tu as 36 balais, c'est pas la même quand même. C'est pas la même. Tu es forcément un petit peu plus dans le dur par moment. Tu peux moins être aussi stable qu'à l'époque. Et donc, tu compenses de plein d'autres manières. Mais face à un gars comme ça risque d'être de plus en plus compliqué aussi, je crois.
Après, lui, il l'a reconnu sans rougir. Hein. Cette défaite en finale lui a fait très mal. Enfin, il a fait très mal à Novak Djokovic. On rappelle quand même qu'il jouait pour un huitième Wimbledon, un cinquième d'affilée, exploit que seuls Borg et Federer avaient réussi à faire auparavant. Lui, a priori, a tiré un trait dessus, ça c'est à peu près sûr. 24e Grand Chelem, c'est presque accessoire, car il sait aussi qu'il aura d'autres occasions d'en soulever encore quelques-uns, n'en doutons pas. Et on rappelle aussi qu'il était en lice pour le Grand Chelem calendaire. Il a encore échoué dans cette quête du Graal du tennis que lui-même, monstre à 23 têtes, ou meilleur joueur de tous les temps, je ne sais pas, il n'est pas encore parvenu à décrocher. Est-ce que tu penses, Arnaud, que ça peut l'affecter pour la suite? Est-ce que pour se remotiver, pour repartir à l'abordage encore une fois?
Non, je crois pas. Non, je crois pas. Enfin, après, je crois qu'il est pas fait normalement. Je crois qu'il est fait de défis, de challenge et que c'est un gars qui rebondit très vite. On a vu par moments dans sa carrière des moments de faiblesse, évidemment, des moments un peu down, mais qu'il a parfaitement maîtrisé, géré. Là, il perd, ça se joue à rien. Il sait il aura encore d'autres possibilités. La preuve, il gagne les deux premiers quand même hein, cette année. Donc, et puis là, il est pas loin. Donc, non, je crois pas. C'est un rock, ce mec. Tant que physiquement, tant que mentalement, il aura cette niaque, cette ambition. Enfin, je veux dire, il va aller chercher le 24e et il en veut. Il en veut plus. Moi, je suis pas très inquiet de ce côté-là. Je crois pas. Mais je me trompe peut-être. Mais moi, je le vois rebondir et à l'US même jouer peut-être, probablement même. Un peu plus détendu, étant donné que là, il aura même plus le grand chelem calendaire, tu vois, à porter sur les épaules, là, parce que c'est quand même un sacré poids. On l'avait vu en 21 quand même commencer à vriller complètement. C'était dur, c'est quand même dur parce qu'il est quand même très attendu à chaque fois. Mais non, 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 il est bluffant. Et juste, tu disais, il était très touché, mais qu'est-ce qu'il a été bon dans son speech, dans son discours après?
Très classe.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été bon? C'est quand même, c'est voilà, là je sais pas, mais moi je le trouve à tous les niveaux excellent. C'est-à-dire que sur Alcaraz, sur ce qu'il dit, Il y a une espèce de lucidité qui est aussi assez incroyable. Alors que, tu vois, tu peux être effondré, tu vois, faire des speeches un peu à la va-vite parce que tu as les boules et que tu n'es pas passé loin. Putain, lui, il prend le temps, il y a un peu d'humour, il y a de l'émotion. Il y a tout, il y a tout, tout est nickel, tout est parfait. Moi, j'ai adoré, je voulais quand même le souligner. Je sais pas si tu comptais en parler, Seb, donc au cas où, je le fais. Chapeau.
Tu le vois revenir comme un boulet de canon aussi à l'US Open, Cyril.
Ouais. En plus,
Incroyable.
faut se rappeler de comment Djokovic a construit sa carrière. C'est quand même quelqu'un qui a puisé dans cette rivalité avec Federer, mais surtout avec Nadal, pour devenir encore meilleur. Et moi, cette finale, elle me ravit parce que je pense que Djoko va vouloir prouver qu'il a encore de quoi dompter. Voilà, on peut vite. Voilà, on a sans doute tous très envie de voir Alcaraz regagner d'autres grands chelems. Enfin voilà, vite tourner la page, ce serait une erreur énorme de faire ça. Et je pense que Djoko va puiser là-dedans pour être encore plus redoutable. Et voilà, je pense que la finale de l'US Open, bon, on ne peut pas savoir en amont, mais on a très envie que ce soit ça. On a très envie de les revoir en finale de ces grands tournois-là. Et je mettrai surtout pas Djokovic de côté. Jusqu'à preuve du contraire, en fait, ils sont deux dans leur galaxie désormais
C'est excitant
sur le
ça,
circuit.
de voir une
Exactement.
rivalité naître comme ça. Parce que
Exactement.
c'est vraiment, c'est en train de se produire là.
Ça va pas être aussi long que Djoko
Non.
Nadal ou Djoko Federer. Il y aura moins d'épisodes de cette saga-là. En revanche, si c'est à chaque fois des épisodes comme celui qu'on a vécu dimanche, on signe dès demain de suite.
Pardon. Et il y a une autre phrase intéressante aussi de Djokovic. Il a dit qu'il y avait un peu de rejet de Rafa et de lui en Alcaraz. C'est une sorte de déclaration de paternité en quelque sorte. Hein. Il a dit, voilà, je pense qu'il réunit le meilleur de nous trois. Il a la combativité, la mentalité du taureau espagnol de Rafa. Des revers en bout de course que je trouve un peu similaires au mien. Et pour être honnête, je n'ai jamais joué un joueur comme lui. Roger et Rafa avaient leur force et leur faiblesse. Lui, il est très complet. Il a des capacités d'adaptation fantastiques. On peut dire que voilà, les monstres engendrent les monstres en quelque sorte. Et on peut dire aussi que sans Fedal, c'est ce que disait Cyril, il y a pas de Joko non plus.
Ouais. Après, je suis content que ce soit Djoko qui le dise parce que nous, ça fait un moment qu'on en parle entre nous, journalistes, consultants, et on se fait un peu bâcher par les pros Djoko, par les pros Nadal, par les pros Federer, à base de ils disent n'importe quoi. Et finalement, je trouve que le fait que Djoko confirme un petit peu ce qu'on pense, on ne se trompe pas complètement. Évidemment qu'il a pris l'état d'esprit de Nadal, évidemment qu'il s'est inspiré de Federer, on le voit bien dans la dimension du jeu vers l'avant. Et cette qualité de contre avec ce revers notamment, enfin, il y a du Djoko évidemment. Donc en fait, c'est vrai, moi c'est vraiment le sentiment qu'on a depuis le début, mais ça ne veut pas dire. Et encore une fois, attention, ce qu'on dit, c'est oui, c'est un phénomène, c'est un ovni, deuxième Grand Chelem, US Open, Wimbledon. Bon, il devrait en gagner d'autres, hein, vu la manière dont il est parti et tout. Ça ne veut pas dire qu'il en gagnera 20, ça ne veut pas dire qu'il en gagnera autant que ces joueurs-là, ça ne veut pas dire ça en fait. Mais en revanche, ça veut dire qu'il est capable. Élever son niveau de jeu enfin, et de rentrer ouais, dans une dimension qu'on a peut-être jamais vue. Peut-être. Tu vois, il y a ce truc, et moi je trouve qu'il nous l'impose. Il nous l'impose ouais, dans sa façon. Et la preuve en est, c'est-à-dire qu'il prend quand même son petit 600 au premier set. Oh, l'état d'esprit, il est monstrueux. C'est fou, ses réactions. Tu parlais. C'est le joueur qui s'adapte le mieux probablement. Je crois que c'est aussi c'est Djoko hein, qui l'a aussi de ce côté-là encensé en disant c'est fou parce qu'il a quelques matchs sur gazon, c'est son troisième tournoi, le mec, il remporte Wimbledon, il avait déjà fait Cannes l'année dernière, c'est monstrueux. Et ça c'est des qualités de grand champion, enfin, d'immenses champions. Donc ça présage quand même un avenir complètement, complètement fou. Et c'est hyper excitant enfin, de retrouver après ces trois monstres. Un gars de cette dimension, de ce calibre, bah on s'y attendait pas et c'est tellement bon pour le tennis, c'est fantastique.
Il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'effectivement, on se fait critiquer quand on dit tout ça, comme l'a dit Arnaud, mais c'est quand même un gamin qui a grandi en regardant ces trois joueurs-là. Et qu'on le veuille ou non, le facteur mimétisme, bah, ça joue à fond quand on voit Nadal faire un coup droit à l'assaut, quand on voit Djoko mettre des passings, etc. Nous, quand on est gamin en train de jouer au tennis, on a envie de faire la même chose. C'est peut-être pas exactement les mêmes coups, mais évidemment qu'il s'est inspiré de ce qu'il a vu en grandissant et de ce qui se faisait de mieux. Donc, c'est évident que voilà, c'est pour moi, c'est le bébé du Big Three. Je ne sais pas s'il ira aussi haut. C'est sans doute beaucoup trop tôt pour le dire. En revanche, qu'il soit arrivé aussi haut, aussi vite, ça l'inclut dans une catégorie quand même à part. Et on va en parler juste après. Mais pour moi, il n'est plus du tout comparable avec les autres jeunes ou même les moins jeunes qui sont sur le circuit aujourd'hui. Vraiment, pour moi, il y a Alcaraz, Djokovic et les autres.
Alors peut-être que justement Carlos Alcaraz va remotiver Djokovic à se retrousser les manches pour défier encore un peu plus le jeune Espagnol qui décidément emporte tout sur son passage. Donc pour rappel, hein, c'est le plus jeune numéro un mondial. Il décroche un deuxième titre du Grand Chelem avant ses 21 ans, comme Nadal et Becker. Mais il y a une stat aussi assez marquante, Cyril a commencé à en parler. Un chiffre dégoté par notre partenaire Jeux 7 Maths, Alcaraz a décroché son 10e gros titre. Alors j'entends par là hors trophée ATP 250, c'est-à-dire deux grands chelems, 4 Masters 1000 et 4 tournois ATP 500, soit autant que l'ensemble des autres joueurs du circuit nés en 1998 ou après. Hein, donc soit les Tsitsipas, Rune, Sinner, Roger Agassi, Musetti, De Minaur, Humbert dans une certaine mesure. Il a donc clairement un, voire deux trains d'avance hein, sur sa génération. Le seul qui n'entre pas dans cette stat, c'est Medvedev, parce que lui, il est de 96 et qu'il est le seul à avoir bousculé Djokovic et Nadal jusqu'ici en grand chelem. Mais Arnaud, pour toi, est-ce qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère Alcaraz?
Ouais, je crois. Ouais. Enfin, je sais pas. À un moment, on est toujours un peu timide, on n'ose pas. Mais oui. Enfin, on regarde ce qu'il est en train de nous montrer quand même depuis un an et demi. Alors, on peut pas dire le contraire. Oui, c'est du Alcaraz par-ci, du Alcaraz par-là. Enfin, et ses résultats le prouvent cette année quand même. En dehors de Roland, où on se dit ah, c'est bon, il a que 20 ans finalement, il trébuche. Bon, et il y en aura d'autres de déconvenus. Mais pour le reste, c'est impressionnant ce qu'il fait quand même. C'est quand même fou. C'est fou. Voilà. Depuis qu'il a repris là, cette année, on prend sa feuille de match. Elle est quand même folle, non? Donc oui, on rentre dans une nouvelle ère. Après, voilà, c'est de savoir. Certains diront, mais est-ce que le physique tiendra? Ok, bon, Nadal, ça a tenu globalement, hein, même si, il y a eu quelques pépins, mais ça tient. Et puis il est quand même assez souple et je pense qu'il va bien s'entourer, donc je ne suis pas très inquiet non plus. La trompe. Il m'a l'air d'avoir quand même bien la tête sur les épaules et bien dans l'entourage. Quand on voit aussi la relation qu'il a avec Juan Carlos Ferrero, il est dans un petit cocon là. Il ne faut surtout pas y toucher. Il est au top, il est heureux. On le voit souriant, on le voit hyper épanoui. Il ne se pose pas de questions en fait. Il n'y a pas défaite ou victoire. Je remets en question tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a nourri ces dernières années. Moi, je trouve ça génial. Donc, tu as quand même tous les voyants qui sont au vert. Et en effet, pour rejoindre Cyril, pour moi, c'est Alcaraz et les autres, hein. En sortant évidemment de Nadal Djoko qui joue encore, mais c'est Alcaraz et les autres. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.
Alors lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec toi, hein. Je parle d'Alcaraz. Il dit tant que Rafa et Djokovic continuent d'être en activité et de jouer, bah, il n'y aura pas de nouvelle ère. Dans quelques années, ils prendront leur retraite, ils joueront peut-être plus, mais le débat pourra ressurgir à ce moment-là. Mais maintenant, c'est pas le moment. Et je crois, Cyril, que tu es un petit peu d'accord avec ça aussi, non?
Ouais, mais parce que, enfin, en fait, il a raison, Arnaud. Il met Djokovic et Nadal à part. Et au fond,
Oui.
c'est aussi ce que dit Alcaraz. C'est la même chose, effectivement. Si on prend le circuit actuel, bon, on va peut-être mettre Nadal à part parce qu'il y a quand même un gros point d'interrogation. Mais Djokovic et Alcaraz en forme, les deux sont dans leur catégorie. Et par rapport aux autres, il suffit juste de regarder les résultats d'Alcaraz face au top 10 cette année. Il est à 8-1. C'est-à-dire qu'en gros, à part Djokovic, personne dans cette catégorie-là n'a pu battre Alcaraz cette saison. En gagnant Wimbledon, il tape quand même Rune, Medvedev et Djoko.
Et
Trois
Berrettini,
top 10.
un petit
Oui,
peu
et
avant,
Berrettini qui revenait,
qui
qui
était
pourrait
aussi.
revenir aussi dans le top 10. Donc, ça dit quand même à quel point pour moi, voilà, quand je dis qu'il y a Djoko et Alcaraz, c'est qu'ils ont une marge par rapport aux autres. Après, par contre, je suis d'accord avec Arnaud, c'est une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non, parce que c'est un peu dur de dire ça pour Daniil Medvedev qui avait réussi à battre Djoko en finale de l'US, mais malgré tout, c'est la première fois, je trouve, qu'on voit un joueur capable de battre le meilleur joueur, enfin un des membres du Big Three, au sommet, en finale d'un grand chelem, au bout de 5-7, avec moins de pression peut-être que ce qu'avait connu Djoko pendant l'US Open. Et pour moi, c'est ça, voilà, c'est pour moi le match de dimanche, c'est la preuve définitive qu'on a basculé sur autre chose. Le Big Three est mort, on a peut-être un Big Two, voilà, je ne sais pas si ça naîtra ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment une dualité au sommet qui est plus claire que jamais. Et maintenant, c'est presque impossible de, bah voilà, de les différencier les deux. Et c'est pour ça que c'est aussi excitant.
Et tu regardes depuis qu'il est vraiment arrivé là sur le circuit, cette montée en puissance. Et moi, j'y croyais pas. Donc, tu vois, je suis le premier surpris. Hein. Je pensais pas qu'il serait aussi constant, aussi régulier. Je pensais pas qu'il puisse avoir cet état d'esprit en fait sur tous ses matchs. Vraiment, je pensais pas. Donc, je suis moi-même bluffé. Mais tu regardes, il a perdu donc à Rome. Le fameux match sur Marozan qui fait son match chaleur et ça lui a fait presque, on sait ce qu'on se disait, ça lui faisait presque du bien parce qu'à un moment compliqué, derrière, il fait demi sur Djoko, ok, certes, 1 et 1 sur les 3e et 4e sets dur dur, mais pour tout le reste, c'est impressionnant. Donc il est, en fait, c'est réussir à mettre cette intensité physique et mentale, parce que c'est les deux, hein, évidemment. Sur chacun de ces matchs, avec le sourire, avec autant d'aisance et de facilité, c'est impressionnant. Et en fait, c'est le plus dur hein, quand on est sur le circuit, réussir à enchaîner, réussir à être régulier, réussir à se dire je prends du plaisir, je m'éclate, même quand c'est plus dur, même quand c'est plus compliqué. Là, il est toujours là-dedans. On l'aime ce sourire quand même, il fait du bien aussi. Hein.
Ouais.
Ça, c'est cool. Et même pendant ces matchs, parfois, on le voyait, parfois il y a des matchs où il y a de la musique entre sur les changements de côté. Le mec, il regarde son clan, il sourit comme un gamin de 20 ans. C'est génial de voir ça. C'est pas un robot. Et c'est ça qui est cool. Il y a quelque chose de très humain, en fait, qui se dégage. C'est pour ça qu'on l'aime autant, en fait, je trouve, aussi. Voilà. Donc, en plus d'être hyper spectaculaire avec des points stratosphériques, des coups de défense sortis, mais de nulle part. Non, il a tout, hein. Il a tout pour nous embarquer là, ce jeune, pendant une grosse facile dizaine d'années. Et ouais, il y a une nouvelle ère, ouais. Après, et tant mieux s'il peut montrer la voie aussi à d'autres. C'est surtout ça, je crois.
Il y a quelque chose qu'il va falloir combattre quand même pour la next-gen, ou enfin maintenant ils sont plus si jeunes que ça, mais pour voilà, Tsitsipas, Medvedev, Zverev, etc. Il y a quelque chose qui a transpiré ces derniers mois, c'est une espèce de fatalité en fait face au phénomène Alcaraz. Tsitsipas, il a un bilan déplorable face à Alcaraz et sur le dernier match, il était un petit peu bon, bah oui, c'est vrai que j'arrive pas à le lire, j'arrive pas à gagner contre lui. Il est vraiment très très fort, il est vraiment très très beau, etc. Medvedev a eu des propos hyper élogieux et c'est normal envers Alcaraz, mais il va falloir aussi que faut pas qu'Alcaraz devienne pour eux un petit peu ce qu'a été le Big Three pendant des années en Grand Chelem, c'est-à-dire l'obstacle qui existe toujours dans ton tableau et que tu n'arrives pas à passer quand les matchs décisifs arrivent. Il va falloir qu'il surmonte ça. Je mets pas Sinner dans ce schéma-là parce que finalement les plus jeunes. Sinner, Musetti, ils ont des courbes de croissance normales, là où celle d'Alcaraz est juste démentielle. Donc voilà, mais c'est plus pour les joueurs qui étaient là avant et qu'on voyait comme ceux qui allaient prendre la relève. Faut qu'ils arrivent à sortir du côté il est trop fort et voilà, sortir de la fatalité. C'est des champions, mais il va falloir aussi qu'ils se sortent de ça parce que sinon leur carrière restera quand même décevante en grand chelem en tout cas.
Là, en 6 mois de compétition, il a 6 trophées maintenant, cette année. Donc, c'est quand même très honorable. Un temps de passage déjà vu hein, sur le circuit, mais qui est inédit pour lui. Dans cette spirale positive, jusqu'où le voyez-vous aller? Cette saison, il y a l'US Open qui arrive, le Masters, deux exercices qu'il adore. Il a remporté Flushing l'année dernière. Il a accroché le Masters Next Gen aussi en 2021. Vous le voyez tout emporté sur son passage là?
Je ne sais pas s'il va tout remporter, mais en tout cas, on peut lui prédire un avenir sans limite, quoi. Enfin, je vois pas quoi dire d'autre. C'est-à-dire que c'est sur chaque tournoi, tu as vraiment le sentiment ouais, qu'il peut s'imposer. Il peut s'imposer même s'il y a Djoko aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Parce qu'à la limite, s'il n'y a pas Djoko, ça devient vraiment le grand favori. Clairement, à chaque fois. Là, sur gazon, enfin, je ne sais pas, c'était difficile, me semble-t-il, de le mettre comme favori avant cette finale. Même si tu te dis qu'il est capable, et ça c'est aussi très important, d'avoir quand même cet espoir de le voir, non pas simplement rivaliser, mais de pouvoir le battre, mais tu te dis quand même, après le premier set, bon, ça va être compliqué quand même, parce qu'en face c'est un mur, et qu'il anticipe tout, il voit plus tôt que les autres, il est plus précis que les autres, et bah finalement il va le faire dégoupiller. Et c'est là où moi j'ai trouvé sa réaction complètement hallucinante. Et c'est là où tu te dis, bon, ok, très bien, c'est le seul. Donc, si Quand tu auras Djoko, ben, on va s'attendre à ces fameux duels et on va les vouloir plus que tout. Et puis quand tu n'auras pas Djoko, ça sera le grand favori. Mais pour l'instant, c'est du mal quand même à le positionner aujourd'hui, même s'il l'a battu là, au-dessus d'un Djoko. Faut pas pousser quand même.
Ce qui est marrant, c'est que Vilander, lui, le voit avec 10, voire 15 titres majeurs. C'est quand même compliqué d'arriver à se projeter comme ça, pour le voir aussi prolifique, mais pour arriver à ça, mettons qu'il y arrive, il faut des séries aussi. Nadal à Roland, Federer à Wimbledon, Djokovic à l'Open d'Australie. Pour vous, ce serait lequel?
C'est là le paradoxe à mes yeux pour Alcaraz en fait. C'est-à-dire qu'il a gagné deux grands chelems, peut-être dans les tournois où on l'attendait le moins. Alors, je mets l'US Open à part, mais je pense qu'à Roland cette année, on se disait, ouais, il est quand même au-dessus.
Les
Et puis,
murs, ouais.
il y a cette demi-finale, etc. Moi, ce qui me fascine, c'est que il peut réussir quelque chose qu'aucun autre membre du Big Three a réussi, c'est-à-dire se dire. Il peut gagner 5 tournois du grand potentiellement, hein. Il le fera peut-être pas, etc. Mais il a le jeu pour pouvoir gagner sur absolument toutes les surfaces et gagner plusieurs fois. Donc je ne sais pas s'il aura un royaume comme l'ont eu Nadal à Roland, Roger et Djoko à Wimbledon, mais ou à l'Open
Open
d'Australie pour
d'Australie,
Djoko.
ouais, Djoko.
Mais il est quand même en capacité de gagner absolument partout. Là où Nadal, quand il a commencé et à l'âge, puisqu'on a parlé de ça, à l'âge où avait Nadal. Nadal, on était quand même à 21 ans, on se disait, bon, ouais, il y a Roland, mais c'est encore pas pareil ailleurs. Alcaraz, c'est déjà pareil ailleurs, voire plus fort sur d'autres surfaces.
Moi, je le vois en remporter un paquet. Voilà. Je ne sais pas si c'est beaucoup, un paquet, mais je crois que c'est beaucoup.
Le vois
Non,
dépasser
mais
Sampras
oui.
déjà? Parce que
Ouais,
c'est
ouais,
une
ouais.
première
Ouais,
marque, on va dire,
bien sûr, t'as
symbolique,
raison.
tu vois.
Écoute, allez, ça va, tu sais pas ce qui peut se passer. Alors, ok, on commence par dire, s'il se blesse pas, pas trop, tu vois, qui peut jouer. Non, mais parce qu'il faut pouvoir jouer. En fait, pour gagner autant, il y a un truc, hein, c'est que tu es obligé de jouer quand même tout le temps, hein, et longtemps. Sinon, tu n'y arrives pas. Donc, c'est le premier point. Donc, en effet, oui, à partir de là, franchement, quand tu vois sa domination, tu parles de 6 tournois remportés, sur combien de tournois joués? Je sais pas, pas beaucoup plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une domination qui est quand même en train de s'installer. Donc, si demain tu dis pendant quelques années il en gagne un ou deux par an parce qu'il y a Djoko qui va bientôt s'en aller aussi, écoute, c'est quand même probable, j'ai envie de te dire. C'est probable. Et donc ça voudrait dire que ouais, dépasser Sampras, ouais, c'est complètement dans ses cordes. Après, au-delà, faut pas trop s'avancer, attention quand même. Parce que là, ce qu'on fait les trois là, c'est. On
Et
en
c'est
reparlera.
peut-être Alcaraz qui va nous faire rendre compte de à quel point ce qu'ont fait Nadal, Djoko et Federer a été absolument prodigieux et incroyable, parce qu'au-delà de gagner beaucoup de titres, l'avoir fait sur une période de temps aussi longue, c'est ça qui est quand même assez dingue pour les trois et la régularité en Grand Chelem, etc. Alcaraz sera un bon baromètre pour se rendre compte peut-être de ça.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce Wimbledon. Merci, messieurs, pour cette émission. On se retrouve au cœur du mois d'août avant que n'arrive l'US Open pour la prochaine émission, mais aussi avant que n'arrive le Greenwiz Paris Matcher 2023, hein, grand chelem de padel qui revient du 4 au 10 septembre après première édition très concluante l'an passé. Le padel fait son grand tour à Roland-Garros. Hein, tu veux nous en dire quelques mots, Arnaud?
Bah écoute, ouais, écoute, c'est gentil, merci Seb. Ouais, complètement. Ouais. Donc du 3 au 10, il y a les qualifs le 3 et donc ensuite la table finale du 4 au 10 septembre, c'est au stade Roland-Garros, donc sur le cours Philippe Châtrier, on installe une piste de padel où viendront s'affronter donc les meilleures joueuses du monde de padel et les meilleurs joueurs. Donc l'année dernière, on avait qu'un tableau masculin, là il y a un tableau féminin en plus. Donc un gros spectacle avec plein d'animations autour, un régal. Voilà, c'est vraiment l'événement de la rentrée. Donc en septembre, on est sold out déjà samedi et dimanche pour les demi-finales et les finales. Donc on est ravis. Et avec des night sessions, deux matchs. Donc à partir de 18h, un match à 18h, un match à 20h. Et voilà, donc une ambiance très conviviale, festive au stade Roland-Garros début septembre. Il reste quelques places. Et en plus, à des prix vraiment, et j'insiste, très accessible. Donc c'est cool, ouais, je suis ravi. Ça va
On
être top.
rappelle que tu es le directeur du tournoi, hein, quand même, pour ceux qui ne
Tout à
sauraient
fait.
pas. Cyril, je te sais joueur de tennis, est-ce que tu t'es mis au padel?
Pas encore, mais c'est
Ah,
vraiment
t'as
dans
peur,
les
c'est pour
objectifs
ça. T'as
prochains.
peur. T'as peur
J'ai un
de
peu peur, ouais,
switcher, t'as peur de
exactement.
vriller, je le sais,
C'est
t'as peur
ça.
de l'addiction, comme tous les autres.
Et...
Tu vas tomber dedans, t'es foutu.
Mais tu auras l'occasion de t'y mettre parce qu'il y a des cours d'initiation pendant le
Exactement,
Major.
ouais,
Et
exact.
bah
Ouais, il faut passer
rendez-vous.
déjà.
Ouais, rendez-vous est pris alors. Promis.
Mais non.
Voilà. Donc un rendez-vous coché
Toi
dans
aussi,
nos
Seb.
agendas. Mais bien sûr, bien sûr. Et en attendant, suivez toute l'actu sportive hein, sur nos applications, et notamment l'épilogue du Tour de France hein, qui va nous tenir en haleine sur nos applications jusqu'à la fin de la semaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas quand même d'aller taper la balle. Allez, bon été, à bientôt.
Salut, salut Seb, salut Cyril.
Merci.